Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. César Yao.
Bonsoir à tous, tout de suite le sommaire de ce jeudi 18h. Le président du Conseil européen a rencontré ce jeudi le chef de l'État ivoirien au palais de la présidence. Les questions de développement économique ont été abordées sans oublier celles relatives à la sécurité du pays. Là-dessus, le président Alassane Ouattara a renouvelé son remerciement pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme assise à Jacquesville. Les régulateurs des médias des pays africains de l'espace francophone et les plateformes en ligne vont désormais assurer ensemble le contrôle et la régulation de la communication sur les supports numériques à travers, n'est-ce pas, de la déclaration. Au travers de la déclaration d'Abidjan, l'Afrique s'inscrit en tant qu'actrice dans la dynamique des régulations mondiales de l'espace public médiatique numérique. Enfin, dans l'actualité internationale, au Sénégal, des proches du président et du premier ministre nommés à des postes clés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. En visite en Côte d'Ivoire, le président du Conseil européen a eu une séance de travail avec le chef de l'État ivoirien aujourd'hui jeudi au palais de la présidence. Les questions de développement économique et de sécurité ont constitué l'essentiel des échanges. Le président Alassane Ouattara au sortir des échanges.
Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nombre de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous avons exposé tout ce que nous faisons dans ce domaine au niveau de la région et bien au-delà, et surtout en essayant de régler le problème des faux papiers et de traquer les passeurs. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi de la lutte contre le terrorisme. Alors sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville que vous avez visité hier.
À l'instant, le président ivoirien Alassane Ouattara. À son tour, le président du Conseil européen a salué la convergence de vues et d'actions entre la Côte d'Ivoire et son institution dans la plupart des secteurs de coopération. Charles Michel.
Quelques points du côté européen, on apprécie sincèrement. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Quand il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche le secteur du cacao, puisque nous sommes, l'Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que les investisseurs privés puissent jouir d'une situation macro-financière et macro-économique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. On a pu aborder de manière très opérationnelle la coopération pour traiter ensemble un sujet d'intérêt commun qui est la question de la mobilité et la question de la migration. Et je pense qu'on a un intérêt commun à faire en sorte que ce soit les responsables politiques africains et européens ensemble qui décident qui est en situation de pouvoir aller du côté européen ou inversement. Il faut donc offrir des canaux de migration légale et être mobilisés ensemble contre les groupes criminels qui exploitent le malheur, le désespoir, la misère de manière cynique.
voilà, présent. Sinon, à l'instant même, le président du Conseil européen, Charles Michel, vit des partis politiques à présent. Le Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était face à la presse aujourd'hui, jeudi, à son siège à Abidjan. Cocody, cette tribune d'échange était l'occasion pour le secrétaire exécutif du parti de disséquer l'actualité nationale et celle hors de nos frontières. On fait le point avec Linda Balier.
Passons en revue l'actualité sociopolitique internationale. Le secrétaire exécutif du RHDP a félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal. Et s'intéressant à celle de la Côte d'Ivoire, notamment la réinscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Cissé Bakongo répond ceci.
À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat, qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, par contre, et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle, ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice.
Sur le retour de Guillaume Soro, le RHDP, qui salue sa récente initiative, fait cette invitation.
Nous encourageons l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, et son entourage à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, aussi bien par des appels, mais également par des déclarations qui vont donc dans le sens de la réconciliation.
L'élection présidentielle de 2025 se prépare dès maintenant, selon le RHDP, pour qui son candidat Alassane Ouattara gagnera l'élection sans embâge, d'où le renouvellement de ses instances.
L'objectif de ce renouvellement réside dans notre volonté de maintenir son dynamisme et de mettre notre parti en ordre de bataille. L'objectif, à terme, est de réussir la prochaine révision de la liste électorale et de gagner l'élection présidentielle de 2025 au premier tour, avec un score sans appel.
Le RHDP a cependant assuré au PDCI sa solidarité, sa présence à toutes les étapes des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié.
Le député Pascal Afinguessan, président du FPI, vient de prendre l'initiative d'une enquête parlementaire sur la filière café-cacao à travers un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale. Pour Kwaku Kra, vice-président du FPI en charge des questions électorales, cette initiative d'enquête parlementaire vise à faire éclater la vérité et faire des recommandations. L'écoutons.
Depuis un certain temps, il y a une crise dans la filière café-cacao. Le président Pascal Afinguessan, au-delà de son parti politique, se saisit de cette question parce que dans l'État, il y a des mécanismes pour connaître de la vérité quand il y a un problème. Et l'un des mécanismes, c'est l'enquête parlementaire. Donc, il s'est saisi de la question pour que le Parlement puisse se saisir de cette question pour interroger toutes les parties prenantes à cette filière-là pour que, enfin, la vérité éclate. Et quand la vérité éclate, ce n'est pas pour sanctionner quelqu'un, c'est dans l'intérêt de tous pour que le Parlement puisse formuler des recommandations de sorte qu'il y ait l'apaisement.
Est-ce que le Parlement va donner une suite à ce courrier du président Pascal Afinguessan?
C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est dans l'intérêt même du gouvernement. Et cette vérité-là ne peut que provenir du Parlement et non pas d'un parti politique.
Vous avez parlé d'éclatement de la vérité.
Il faut voir quels sont les tenants et les aboutissants. Et à partir de là, s'il y a des fautifs, je crois que dans les recommandations, des décisions seront prises.
Kwaku Kra, vice-président du FPI en charge des questions électorales, était avec Constant Maïlé. Les régulateurs des médias des pays africains de l'espace francophone et les plateformes en ligne vont désormais assurer ensemble le contrôle et la régulation de la communication sur les supports numériques. C'est effectivement l'objectif de la conférence des régulateurs des médias qui s'est tenue à Abidjan du 23 au 24 avril. Compte rendu signé Mel Emmanuel.
C'est par la signature de la déclaration d'Abidjan que s'est terminée cette conférence, réunissant autour de la table de discussion les régulateurs de médias de l'espace francophone d'une part et d'autre part les plateformes numériques. Au sortir de la rencontre, la présidente du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Latifa Arbash, s'est exprimée sur l'importance de cette déclaration.
C'est une déclaration qui rappelle la nécessaire responsabilisation des acteurs du numérique, mais qui rappelle que chacun a son rôle à jouer. Et pour moi, c'est important que cette déclaration puisse puisse faire passer le message du nécessaire travail commun entre les régulateurs et les acteurs du numérique.
De plus, au travers de la déclaration d'Abidjan, l'Afrique s'inscrit en tant qu'actrice dans la dynamique de régulation mondiale de l'espace public médiatique numérique. Latifa Arbash.
Nous ne pouvons pas être seulement des spectateurs de ce dynamisme régulatoire qui s'est installé dans le monde. L'Afrique doit être acteur de cet effort mondial harmonisé et concerté que nous appelons de nos voeux. L'Afrique doit participer à la construction d'un consensus international sur l'idée et la nécessité de réguler les plateformes.
Tenue du 23 au 24 avril 2024 sur le thème « Réguler les services numériques pour un dialogue renforcé entre les régulateurs et les grandes plateformes en ligne sur le continent africain et dans l'espace francophone », la conférence d'Abidjan s'inscrit dans la perspective du 19e sommet de la francophonie prévu du 4 au 5 octobre prochain en France.
C'est aujourd'hui jeudi 25 avril que l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Les festivités officielles se sont déroulées mardi dernier à la sous-préfecture de Boaké. Le thème retenu pour cette 17e édition est « Renforcer le traitement dans l'équité et le genre ». Pour cette commémoration, le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont mis l'accent sur les actions pour faire obstacle à l'équité sanitaire. On fait le point avec Paul Bénédicte Boulou.
Il est à ce jour important de porter un regard sur les inégalités en matière de santé. Docteur Fatim Tall, chef de bureau de l'OMS au nom des partenaires.
Dans le contexte spécifique des maladies à transmission vectorielle, lorsque les inégalités sont associées à la résistance aux médicaments et aux insecticides, à la fragilité des systèmes de santé, la santé des personnes les plus vulnérables s'en trouve davantage compromise et les efforts déployés pour franchir la dernière étape du processus d'élimination du paludisme entravé. Voilà pourquoi pour cette édition 2024, l'OMS et d'autres partenaires mettront l'accent sur les actions nécessaires à l'égalité des genres et aux droits humains dans la riposte au paludisme en Afrique et partout dans le monde.
Le paludisme demeure un problème de santé publique. Professeur Soro Kuntele Gona, conseiller du ministre de la Santé.
Les données épidémiologiques révèlent une augmentation de l'incidence et les décès avec respectivement 249 millions de cas de maladies de paludisme et 608 000 cas de décès. En Afrique, l'incidence du paludisme reste élevée à 233 millions et 580 000 cas de décès. Les enfants de moins de 5 ans demeurent les premières victimes avec 80% des cas de décès. En Côte d'Ivoire, la situation du paludisme demeure préoccupante pour le gouvernement.
Notons que pour cette année 2024, la Côte d'Ivoire a introduit le vaccin contre le paludisme chez les nourrissons dans le PEV.
Direction l'intérieur du pays, notamment à Korogo, où suite à la décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique relative à la suspension de la fabrication et de la commercialisation de produits à toté original 100% naturel et la paix Konyo Moussoyako, le collectif des employés revenus et revendeurs de ces deux entreprises suspensionnées, ont rencontré le préfet de la région du Poro, André Ekponon Asomo. Objectif, demander son implication en vue de la levée de la mesure. Compte rendu signé Tommy Corona.
En sa qualité de porte-parole du collectif des employés et revendeurs des entreprises Atoté et Konyomuso Yako, Dame Ouattarawa lance un cri du cœur.
Vraiment, on n'a pas de métier à faire. Surtout moi-même, je suis une mère célibataire. Mes enfants sont à ma portée. C'est là que je me débrouille pour pouvoir avancer la scolarisation de mes enfants. Donc, elle a fait mes de ce coin, vraiment, ça ne nous arrange pas. Surtout moi-même, ça ne m'arrange pas.
Koulibaly Nanguin, imprimeur de son état, dit ne pas comprendre la décision et pour cause.
Nous n'exercions pas dans l'illégalité. Atoté est l'un des rares tradis praticiens qui avait toute la documentation en sa possession. Il exerçait au vu et au su de tous. Nous avons même été décorés par le chef de l'État de ce pays. Alors du jour au lendemain, quand on jette le discrédit sur notre produit, on se pose des questions. C'est toute la crédibilité même de nos institutions qui est remise en cause. Et donc nous en appelons aux autorités pour qu'on revoie cela.
Le jeune étudiant Silué Niviga Adama en appelle à la bonne compréhension des autorités, d'autant plus que 2023 avait été décrété année de la jeunesse.
Donc nous demandons une doléance au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qu'ils aient pitié de cette jeunesse qui pense à la jeunesse de Korogo. Donc nous demandons une doléance à nos papas, en tant que le président, qui ait pitié vraiment de nous.
Le préfet André Pono Assoumou dit avoir pris bonne note et transmettra à qui de droit. Tommy Corona, Korogo, pour Radio de la Paix.
Selon les chiffres annoncés par le Conseil national de sécurité au début du mois de février 2023, près de 9000 personnes venant du Burkina Faso fuyant les attaques terroristes auraient franchi la frontière pour, n'est-ce pas, trouver refuge ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce flux occasionne des risques sanitaires, socio-économiques et même environnementaux. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'une étude menée dans le cadre du projet Résilience pour la paix par les ONG Equal Access et Indigo Côte d'Ivoire. Un webinaire a eu lieu, n'est-ce pas, mardi dernier, en vue de présenter ce rapport dans les moindres détails. On en parle avec Justin Koulibaly.
L'étude permet dans un premier temps de mieux comprendre les raisons de ce déplacement massif. Bleu Patricia de l'équipe de recherche.
Pour certaines communautés, il fallait anticiper sur l'idée de se mettre à l'abri.
Se mettre à l'abri des attaques, mais aussi échapper au recrutement des volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Dans le lot figurent également ces personnes qui nourrissaient depuis très longtemps l'idée de venir en Côte d'Ivoire.
Le réflexe des demandeurs d'asile, c'était de s'orienter vers les zones géographiques les plus proches. La deuxième configuration, c'est la proximité culturelle ou le lien de parenté.
Le rapport mentionne des préférences géographiques selon les activités pratiquées par les demandeurs d'asile. Bleu Patricia.
Du côté de Bunkani, nous avons vu l'arrivée massive des éleveurs. Du côté de Kong, Kafolo, on a vu l'arrivée des agriculteurs. Parce que cette localité favorise l'installation, la prospérité des agriculteurs.
Toutefois, la chercheuse alerte sur le déplacement des demandeurs d'asile vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire.
Il faut essayer d'avoir le projecteur sur Dabakala, sur Katiola, sur Bouaké, où les gens s'orientent de façon massive.
La mise en œuvre de réponses rapides et des sensibilisations sur les questions de paix, de cohésion et de vivre ensemble s'impose.
Plus de 1600 jeunes acteurs du monde du transport artisanal, communément appelés Bakay Woro Woro, ont reçu leur parchemin de fin de formation dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan PMUA hier mercredi lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports Amadou Koné. Ce projet de formation vise à la professionnalisation des secteurs du secteur du transport ici en Côte d'Ivoire. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Pour Meïté Bouaké, directeur général de la Soutra, cette formation, en plus d'être bénéfique pour les chauffeurs, elle l'est aussi pour son institution.
Nos formateurs à l'Institut Soutra bénéficient des modules qui n'étaient pas enseignés à la Soutra. Merci à tous les partenaires pour cette opportunité que vous donnez à la Soutra.
Sur le contenu de ce projet, Kwaku Kwaku Romain, directeur général de la MUGA.
On a su la formation, mais en même temps, on va aider les formateurs à renouveler leur parc automobile. Et aussi, on va essayer de créer des pôles d'échange humains, des gares urbaines pour leur permettre de travailler communautairement.
Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil des patronats des entreprises du transport routier, a au nom des récipiendaires pris un engagement.
Ce que nous pouvons vous garantir, au nom de cette jeunesse, nous nous engageons à vos côtés, à tout mettre en œuvre pour que sur les routes ivoiriennes, nous puissions avoir des jeunes Ivoiriens qui ont de bons comportements.
Lors de cette cérémonie, Amadou Koné a donné quelques chiffres concernant les décès des chauffeurs liés aux accidents de la route.
Il y a 782 chauffeurs qui ont été tués dans les accidents de la route de 2020 à fin 2023. C'est pour cela que je me réjouis de ce que dans cette formation, il y a un aspect important qui est lié au respect du code de la route.
Au responsable de la MUGA, le ministre des Transports demande ceci.
Je demande à la MUGA de faire en sorte qu'il y ait dans le suivi de ce qui est fait, des formations, des mises à niveau sur les outils modernes de gestion des entreprises de transport.
C'est près de 5500 jeunes qui seront formés dans le cadre de ce projet.
Dans l'actualité internationale, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé hier mercredi dans la soirée une salve de nomination. Le général Moussa Fall, chef de la gendarmerie nationale, un poste clé remercié. Il est remplacé par le général Martin Faye avec un profil plus neutre. Jusque-là, numéro 2 de la gendarmerie nationale. Autre nomination très symbolique d'ailleurs, celle du journaliste Pape Alain Niang, proche d'Ousmane Sonko, à la tête de la radiodiffusion sénégalaise, connue pour son opposition au régime de Macky Sall, ce qui lui a d'ailleurs valu deux séjours en prison. Enfin, valide Diouf Bodiane, autre proche qui a séjourné en prison également, cet inspecteur des impôts et domaines est nommé directeur du port autonome de Dakar. En tout, ce sont 18 nominations qui ont eu lieu et presque tous ceux qui ont été choisis faisaient partie du directoire de campagne de Bassirou Diomaye Faye. La présidence sénégalaise a aussi annoncé la création d'une commission d'indemnisation des victimes. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. Le président du Conseil européen a rencontré ce jeudi le chef de l'État ivoirien au palais de la présidence. Les questions de développement économique ont été abordées sans oublier celles relatives à la sécurité du pays. Là-dessus, le président Alassane Ouattara a renouvelé son remerciement pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale des luttes contre le terrorisme, sise à Jacquesville. Les régulateurs des médias des pays africains de l'espace francophone et les plateformes en ligne vont désormais assurer ensemble le contrôle et la régulation de la communication sur les supports numériques. Au travers de la déclaration d'Abidjan, l'Afrique s'inscrit en tant qu'actrice dans la dynamique de régulation mondiale de l'espace public médiatique numérique. Enfin, dans l'actualité internationale, au Sénégal, des proches du président et du premier ministre nommé à des postes clés. Fin de ce jeudi à 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain vendredi à 7h. Tout de suite, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Boulou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.